La portée d'une signature, implications juridiques et administratives, c'est de cela qu'il s'agit dans le forum d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une signature? Pourquoi et dans quel cas doit-on signer? Quels sont les types de signatures? Quelles sont les implications juridiques et administratives qu'implique une signature? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons fait appel à Soumaïla Abdou Sadou, administrateur, et Maina Karté, juriste également avec nous. À la présentation, Alassane Kouzi Mohamed. Bonsoir à tous. Ce soir, nous vous entretenons autour de la thématique intitulée ainsi qu'elle suit, la portée d'une signature, implications juridiques et administratives. La signature, c'est ce geste banal et personnel qui matérialise un accord ou un engagement sur divers documents selon des motifs variés. Un geste certes banal, mais qui n'est pas sans conséquence en cas d'usage abusif par soi ou par les tiers. Le dictionnaire Petit Robert donne trois sens au mot signature, en l'occurrence l'inscription qu'une personne peut faire de son nom sous forme particulière et constante pour affirmer l'exactitude, la sincérité d'un écrit ou en assumer la responsabilité, l'engagement signé ou l'action de signer. Alors, je donne à présent la parole à nos invités pour compléter cette définition justement du mot signature. Je commence par vous, Maina Karté.
Merci bien, mais vous avez tout dit, je n'ai pas à compléter une définition donnée par le lexique des termes juridiques. Je pense que l'exactitude, c'est ce que vous venez de dire. Vous venez de dire tout le sens du mot signature. Ça traduit, la signature peut être une condition de validité d'un acte ou d'une procédure. Elle traduit le consentement d'une personne par rapport à une procédure, par rapport à un acte. Ça traduit donc l'attachement d'une personne à une procédure, un document, un acte, voilà, tout ça. Donc, maintenant, la signature, ça peut aussi authentifier un acte. C'est-à-dire dans le cas où une personne publique, une entité de pouvoir bien déterminée, avec une personne de pouvoir bien déterminée, si elle appose sa signature sur un document, ça lui donne toute son authenticité.
Voilà. Une certaine valeur.
Une très grande valeur, une très grande valeur. C'est-à-dire que le document, il est authentique parce qu'il est signé par le président, par le ministre, par le juge, etc. Une autorité administrative, nantie des pouvoirs irrelatifs.
Monsieur Soumaïla Abdou Sadou, un mot peut-être sur la définition de signature.
Il faut considérer comme signature une marque, une empreinte, ou une inscription qu'une personne effectivement s'est dit, choisit et reproduit de façon constante et uniforme et pour affirmer et confirmer l'exactitude et la sincérité d'un document, comme vous l'avez dit, en assumer les responsabilités. Mais il faut le dire également qu'un document, tout document administratif doit être signé pour avoir le caractère d'acte administratif. Et enfin, je dirais que la signature, telle que vous l'entendez ou telle que nous l'entendons tous, est composée de plusieurs éléments. Nous allons en parler.
Alors, pourquoi doit-on signer et dans quel cas? Pourquoi, Monsieur Maina Karté?
Pourquoi doit-on signer et dans quel
doit-on
cas?
Doit-on signer, oui.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, la signature, c'est un élément de procédure. Souvent, si vous n'avez pas apposé votre signature sur un document, eh bien, il n'est pas valide, tout simplement. Il n'est pas valide. Par exemple, je prends l'exemple d'un document qui requiert un peu la signature d'une autorité. Si cette autorité n'a pas signé, l'acte, il n'est pas né. Imaginons une décision pour un acte réglementaire. Mais si l'autorité qui l'a édicté n'a pas apposé sa signature, c'est un papier tout simplement vide. Il n'est pas encore valide. Mais quand une autorité appose sa signature sur une décision qu'elle a prise, eh bien, la décision, elle est née. Elle est née, elle existe, avant même la notification au destinataire. C'est comme ça en droit administratif. Avant même la notification, la décision, là, elle est valide. Dès que l'autorité n'entire ce pouvoir-là, apporte sa signature, l'acte, il est né, il est valable. Mais peut-être que ça pose le problème de son exécution parce que ce n'est pas notifié encore à son destinataire. Mais là, vous voyez, c'est une signature qui donne une naissance juridique à un acte.
Et qui permet à un simple papier, à un simple écrit, de passer du simple à
quelque chose. À quelque chose de, oui, de valeureux, à vraiment une valeur. C'est-à-dire d'un papier, on passe à quelque chose qui a une valeur juridique maintenant. Et puis la signature maintenant, si je viens du côté d'un administré, si vous n'avez pas apposé votre signature sur un document, ça ne peut pas traduire votre engagement
au respect.
Et il est né, il est réel, il est acquis du fait de la position que vous faites sur un document bien déterminé. Mais si vous n'avez pas signé, eh bien ça ne vous engage pas, ça ne traduit pas votre consentement. Voilà.
Alors, monsieur Soumaïla Abdou, est-ce que la manière de signer obéit à une règle donnée ou bien l'on peut signer n'importe comment?
Non, on ne signe pas n'importe comment. Tout à l'heure, je disais qu'une signature est composée d'un certain nombre d'éléments, parmi lesquels, d'abord, la première chose, c'est la marque, c'est-à-dire qu'il y a une création personnelle. Chacun signe d'une façon quelque chose qu'il est, dont la reproduction de cette marque-là peut donner droit à des poursuites judiciaires, limitations. Et cette marque-là, elle est l'élément le plus important de la signature parce qu'à elle seule, elle peut valider un document. Ensuite, il y a l'identité de la personne, c'est-à-dire son nom et son prénom sans abréviation. Il y a la qualité de la personne, c'est-à-dire du signataire, c'est-à-dire le titre officiel qu'a le signataire. Et enfin, on peut citer comme élément le cachet du service au nom duquel la personne compétente, c'est-à-dire le signataire, signe.
Donc ce sont les éléments. C'est quand on prend en considération les actes administratifs, c'est ça?
Oui, c'est les actes. Oui, exactement. Pour qu'un document ait d'abord la valeur ou le caractère d'acte administratif, il faut qu'il ait la signature. Donc ces éléments-là, il faut qu'ils soient réunis, mais il faut que les. Parce que souvent les gens font les signatures, il doit être. La marque-là, elle doit être visible. Elle ne doit pas être gênée par le cachet. Ouais, on écrit la qualité et on écrit on met le cachet, il y a le nom de la personne et également l'élément, la marque, qui est la création artistique personnelle qu'une personne essaie de reproduire de manière constante
et uniforme. Vous avez aussi évoqué que cette marque doit être uniforme, c'est ça?
Exactement, uniforme. Chaque fois, c'est la même signature que vous êtes amené à reproduire. Par exemple, quand vous partez à la banque, quand vous créez votre compte bancaire, ils vous disent de signer sur les papiers. Et chaque fois, quand vous devrez reproduire la même signature, pour qu'ils vérifient, voir exactement. Et quel qu'en soit le document administratif, si vous regardez, l'autorité, chaque fois, c'est la même signature, c'est-à-dire la même inscription qui reproduit chaque fois. Vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui, demain matin, essayer de reproduire. Non.
Monsieur Maïna Karté,
Je pense que oui, effectivement, on ne peut pas signer n'importe comment. La signature, Soumaïla vient de le dire, c'est une création artistique. Vous avez créé votre signature. Votre signature, c'est votre signature. Ma signature, c'est ma signature. Personne ne doit limiter. Et même dans les dispositions du code pénal, dans le code pénal, vous avez des dispositions par rapport à la limitation d'une signature. C'est des faits extrêmement graves. Le fait, par exemple, de partir traduire l'engagement, le consentement d'une personne sur un acte, alors que c'est même pas ce qui est en train de se passer. Vous imitez sa signature ou bien sur des documents bancaires. C'est des infractions très, très graves. Donc, c'est pourquoi on ne signe pas n'importe comment. Si vous avez produit artistiquement votre signature, eh bien, c'est toute votre vie.
Donc, on ne se réveille pas un beau jour.
On ne change pas de signature. Ça peut créer de grands problèmes. Même ce que vous avez créé artistiquement, si vous le faites mal. Moi, il vient de parler de la banque. Ça m'est arrivé il y a quelques mois. J'ai signé très mal.
Vous avez reproduit votre signature.
J'ai très mal reproduit ma propre signature. Et la dame, elle a vérifié sur son écran, elle a vu que ça ne correspond pas à ma signature. Parce que
initial.
Et elle m'a dit, monsieur, c'est votre signature. J'ai dit, c'est moi, c'est mon compte, c'est ma signature. Elle dit, mais vraiment, c'est mal signé. J'ai dit, bon, vous avez raison, donc mon chèque a été déchiré, tout ça là. Puis j'étais parti reprendre ça avec beaucoup de soin, ma signature telle que j'ai l'habitude de la faire.
Ouais.
Et je suis venu, elle m'a donné de l'argent. C'est pour vous dire qu'on ne signe pas n'importe comment. Même votre propre signature, il faut vraiment maîtriser l'exercice, la manière de la faire. Parce que signer, c'est un acte juridique. C'est un très grand acte juridique, donc je pense que ça ne se fait pas à la légère. Et puis, comme c'est une marque, donc c'est protégé. Je vois, il y a des analphabètes, quand on dit signature, ils font juste un point comme ça. Oui.
Oui, je voudrais justement savoir, est-ce que quand on signe, on est obligé de... Il y en a qui mettent un peu l'initiale de leur nom.
Oui, oui.
Pour signer. Il y en a qui mettent un point, comme vous l'avez dit. Il y en a qui peuvent faire une croix. Il y en a qui peuvent faire juste un trait. Est-ce que c'est acceptable?
Ça dépend. Vous savez, la signature, tout à l'heure, vous avez dit que quelles sont les différents types de signatures. Moi, je dis quelles sont les différentes manières de signer.
Oui.
Il y en a qui signent tout simplement une signature. Bon, il y en a sur le document, c'est déjà écrit, lu et approuvé, et vous signez. Puis, il y en a qui mettent le nom. Il y a dans certaines procédures, on vous oblige d'écrire votre nom et prénom en entier. Puis, vous signez sur le nom ou en dessous. Ça dépend. Je pense que tout dépend de la procédure. Souvent, ces procédures-là de signature, elles sont bien décrites dans la loi. La loi même, souvent, elle intervient pour dire que voilà la manière dont il faut signer. Vous signez sur la mention « lu et approuvé ». Vous signez votre... Vous écrivez « non » et puis vous signez en bas. Et puis, il y a des procédures un peu libres où on dit tout simplement « signature ». Donc, en bas du mot « signature », vous signez. Mais je pense que ça, c'est pour ceux qui ont été à l'école, qui créent. Je vois des gens qui n'ont pas été à l'école et qui se retrouvent soudainement dans des procédures où ils sont obligés d'apposer leur signature. Vous sentez qu'ils n'ont pas l'habitude de signer. Et on dit, signer, il n'a pas de signature, le monsieur. Et maintenant, il fait juste...
Un trait,
il fait une daba, il fait un rond, il fait un carré, il fait un cercle. À l'occasion d'une autre procédure, il va faire une autre chose. Bon, moi, je pense que par rapport à ce genre de choses-là, je pense que là où il faut signer, celui qui n'a pas été à l'école, il faut bien lui expliquer les tenants de ce qu'il va faire. Il faut lui expliquer que ça engage sa responsabilité. Il faut lui expliquer qu'il va reproduire la même chose pour toujours. Il faut lui expliquer que si il y a des petits manquements, il s'expose à telle ou telle chose. C'est une question de compréhension, de sensibilisation. Les fonctionnaires n'ont pas de problème par rapport à ça. Chacun a créé de façon artistique sa signature et même les yeux fermés, il peut la reproduire. Tandis que d'autres ne comprennent même pas le sens, ils n'ont jamais su se forger une signature parce qu'ils ne se retrouvent pas trop souvent dans des procédures administratives.
Monsieur Soumaïla Abdou Sadou, quels sont les critères de validité d'une signature? Et si vous devez donner, par exemple, un conseil à celui qui n'a pas encore de signature, qui voudrait se créer une signature, est-ce que cette signature doit être juste un trait ou un cercle au risque d'être reproduit par d'autres?
Bon, Maïna l'a si bien dit, il faut être à même de reproduire la même chose chaque fois qu'il en ait besoin. C'est extrêmement important cette notion d'uniformité et de constance dans la reproduction de la création artistique que représente la signature.
Et il y en a qui rendent difficile leur signature pour éviter qu'elle puisse être facilement...
Bon, c'est difficile pour les autres, mais pour eux, c'est facile. Ouais. Parce que c'est eux qui l'ont créé.
Est-ce que ce n'est pas conseillé d'avoir une signature difficile pour éviter à des petits malins de pouvoir...
Bon, les faussaires... Quel qu'en soit le type de signature, ils peuvent l'imiter. C'est le fait même de penser à imiter, quel qu'en soit ce que la personne fait, même si c'est un point, on sait qu'il fait chaque jour un point, et qu'il y a son nom dessus, c'est pas votre nom, et que vous reproduisez ces points-là, c'est une infraction. Et vous êtes sujet ou objet à poursuite judiciaire. Et les éléments, on a dit, qui constituent la signature, l'élément le plus important, c'est justement cette marque-là. Elle seule, elle peut valider un document. Et son absence retire le caractère, fait que le document perd son caractère d'acte administratif.
Alors, nous passons à la deuxième partie de cette émission concernant les implications juridiques et administratives, justement, d'une signature. Quand on signe un acte administratif, qu'est-ce que cela implique pour celui qui a signé et celui qui reçoit cette signature? Monsieur Soumaïla.
Pour répondre à cette question, d'abord, il faut savoir que la signature, c'est quelque chose de personnel, mais il y a des délégations. Il y a des délégations, effectivement, ce qu'on appelle dérogation. Dans une signature, c'est le fait de déléguer l'acte matériel de la signature à quelqu'un. Et parmi ces types de délégations, il y a un certain nombre d'exemples. Par délégation, comme on dit, par exemple, pour le et par délégation, par ordre, il y a la signature conjointe, il y a pour copie conforme, il y a le contre-saying. Et enfin, donc ce sont ces types de signatures qui existent, de délégations, qui peuvent attirer, où il y a des responsabilités, effectivement, qui sont engagées de la personne. Parce que quand c'est vous seul qui signez un document, d'office, ça engage votre responsabilité. Donc, si il y a des poursuites, on peut vous poursuivre par rapport à ça, parce que vous en assumez à chose. Mais, par exemple, ils sont différents, ces types de signatures où les responsabilités de plusieurs personnes peuvent, ça peut les impliquer. Par exemple, quand vous prenez le cas de la signature par délégation, qui est une autorisation plus ou moins permanente accordée à une personne pour signer des actes, parce que cette personne, elle est surchargée. Donc, c'est un acte de confiance avant tout. Et en même temps, c'est la personne qu'on appelle le délégant, c'est-à-dire la personne qui donne l'autorisation, l'habilitation à signer au délégataire, il est responsable de ce que...
On a au moins deux responsabilités.
Exactement, oui. Il est responsable des actes que l'autre...
C'est lui qui a été délégué.
Exactement. Donc, c'est extrêmement important, cet aspect-là. Maintenant, ce que vous voyez souvent, on dit par ordre, parce que ça, c'est par exemple, vous voyez, on voit pour le ministre... Et par ordre, c'est-à-dire son secrétaire général, il appose sa signature ou bien son cachet là-dessus. À ce moment-ci, c'est plus ou moins sur des actes qui sont de moindre importance dans les cas de figure. Mais par délégation, elle est plus importante. Ça engage la responsabilité d'autres personnes. Donc, il faut savoir à qui déléguer. Et demain, quand vous n'êtes plus responsable du service, la délégation tombe. Elle n'existe pas. Et également, lui à qui vous avez donné la délégation, si elle perd son poste ou bien elle est remplacée, la délégation ne tient pas. Et c'est justement, encore, il faut l'ajouter, c'est par un acte écrit qu'on fait la délégation. Et on dit les actes qui sont concernés par cette délégation. Tellement que c'est important. Donc, vous ne pouvez pas signer un acte dont vous n'avez pas une autorité, une certaine compétence à signer. Au cas où vous le ferez, vous êtes exposé à des poursuites judiciaires. Vous n'êtes pas le DG ou bien le directeur ou bien il y a des choses dont lui seul a la compétence de signer et que vous vous mettez à signer.
Monsieur Maina Karté, juridiquement, quelles sont les obligations qui incombent à un signataire?
Bon, je vais commencer par la première question d'abord
sur les implications.
Sur les implications. Tout à l'heure, Soumaine a parlé effectivement, parmi les modalités de la signature, il y a tout ce que Soumaine avait dit. Vous savez, dès qu'on dit signature, il y a une autorité nantie du pouvoir de signer. Par rapport à une procédure, par rapport à tel ou tel document, il y a toujours une personne qui va signer. Donc, cette personne-là peut, pour une raison ou pour une autre, être amenée à déléguer cette compétence matérielle de signature à une autre.
Personne.
Bon, maintenant, en ce qui concerne les implications, il faut prendre les deux côtés. Prenons l'exemple d'une décision administrative, un acte réglementaire. Quand l'autorité qui a le pouvoir de signer apporte sa signature, l'implication la plus immédiate, c'est que l'acte est revêtu maintenant de l'autorité de la chose décidée. Comme on le dit en droit, ça veut dire que le revêtu de l'obligarité, s'il contient une obligation à l'intérieur, il doit être respecté, il doit être appliqué, il doit être exécuté. Même si les destinataires contestent la légalité, ça s'applique d'abord. Vous pouvez faire un recours pour l'action de pouvoir devant le juge de l'action de pouvoir. Avant, ce n'est pas suspensif, ça s'applique d'abord. Il est revêtu de l'autorité de la chose décidée, ça va être donc appliqué. S'il contient des droits et des obligations, eh bien, les destinataires sont en droit de se prévaloir de ses droits contenus dans ce acte, même s'il n'aura pas été notifié ou bien il n'a pas été publié. Dès que l'autorité signe, par exemple, un ministre, il signe sur un acte, l'acte-là, il est valable. S'il l'a signé aujourd'hui, mercredi, et puis bon, on vous l'a pas notifié, il faut le lundi pour le notifier ou bien pour le rendre public, si c'est un acte réglementaire, les droits qu'il contient là, ils iront à votre profit. Quand bien même vous ne savez pas qu'une telle décision a été prise. Quand bien même on ne vous a pas notifié.
Okay. À partir de donc, on considère la date de signature.
Ce n'est pas comme la loi où il faut beaucoup de mesures, notamment la promulgation, souvent le contrôle de constitutionnalité, puis les mesures de publicité avant l'opposabilité. Le décret, l'arrêté, toutes les règles administratives, aussitôt signées par l'autorité administrative, eh bien, ils sont valables, ils sont valides, eh bien, ils s'exécutent. Voilà. Maintenant, il y a des actes qui ne sont pas administratifs. Il y a des actes où on doit demander la signature d'une personne par rapport à des procédures bien déterminées. Parce que là, il faut parler même des actes aussi de nature privée. Privés qu'on signe chez les notaires, chez les avocats, etc., chez les huissiers de justice, ou bien simplement entre vous et une personne, sans aller devant un officier ministériel. Mais donc, ça aussi, Dès que vous signez, ça traduit votre consentement. Les obligations qui sont contenues de ce que vous avez signé là, elles vous lient. Du moment où vous êtes lié par rapport à ces obligations, elles vous engagent, vous avez manifesté votre consentement. Ça, ce sont les implications vraiment les plus immédiates. C'est pourquoi souvent, c'est précédé de la mention lue et approuvée.
Justement, pourquoi souvent, malgré cette signature qui déjà, elle seule, matérialise l'engagement et l'accord de la personne, on ajoute encore cette mention sur certains...
C'est une précaution.
Lui est approuvé.
Moi, je pense que c'est une précaution administrative supplémentaire. C'est pour avoir vraiment c'est la garantie de la certitude. Ça vous lit, ça traduit que vous avez lu attentivement, vous avez manifesté votre consentement, vous êtes d'accord et vous signez. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Et je pense que c'est un peu plus fort que le document.
C'est simplement signé.
C'est simplement signé. Voilà.
Quelles sont les conséquences éventuelles encourues par un signateur?
Il y a beaucoup de conséquences. Malheureusement, je n'ai pas le code pénal devant moi ici. Ouais. Mais je pense qu'il y a tout un chapelet de sanctions pénales contre les personnes qui imiteraient les signatures d'autres personnes vraiment à des fins criminelles. Je vous dis que ce sont des infractions très très graves. Le fait de signer, imiter une signature d'une personne pour aller engager ses documents devant la banque,
c'est ça qu'on
ou bien prendre
un
acte à son nom. Prendre une décision à son nom, consentir à sa place, en signant, en apposant, en imitant sa signature, c'est une infraction c'est abject. Vraiment, c'est très grave. Et comme l'a dit Soumaïla tout à l'heure, quelle qu'en soit la manière dont vous signez, les faussaires, ils peuvent s'exercer pendant un mois, deux mois, jusqu'à avoir le réflexe artistique
de reproduire
textuellement votre signature. Et c'est des choses que nous voyons au niveau des tribunaux, surtout au niveau des banques. Il y a plein de criminels qui viennent imiter les signatures d'autorités administratives pour aller engager des procédures financières. Et puis, je pense que les vols de juges, ce sont des infractions qui sont sévèrement réprimées. Même dans les remises de grâce, comme vous entendez, on ne fait pas le décret du chef de l'État qui gracie certains criminels ne concerne pas les personnes qui ont fait du faux en écriture, etc. Donc, vous voyez, c'est une infraction vraiment très abjecte. Et en parlant de la signature, il faut parler de l'évolution de la signature.
Ouais.
Nous sommes à un âge aujourd'hui nouveau, celui des nouvelles technologies de l'information. Donc, la signature dont nous sommes en train de parler, c'est la signature sur le manuscrit, avec le but. Il y a maintenant donc l'arrivée d'un nouveau type de manifestation de consentement, d'une nouvelle manifestation de consentement, notamment celle électronique, où on vous demande d'appuyer sur des chiffres, sur des chiffres, sur des lettres, sur des graphiques pour manifester votre consentement, ou bien on vous demande tout simplement d'injecter de mettre dans des cases des formules, et c'est ça la signature. Bon, maintenant, il y a même d'autres manières de signer aussi. En fait, c'est des choses qui sont déjà en vigueur. La signature électronique, elle est appliquée dans tous les pays à travers le monde, même au Niger, mais que ce n'est pas dans toutes les procédures et ce n'est pas par rapport à tous les aspects. Et puis, ce n'est pas toutes les personnes aussi qui savent faire ces signatures électroniques, parce qu'il faut être... Il faut avoir la maîtrise de l'outil informatique. Mais ça pose aussi un autre problème, celui de la cybercriminalité. Parce qu'à partir du moment où tout ce truc-là se fait sur le net,
ouais.
Il faut craindre l'avènement de nouvelles formes de crimes, celui donc qui fait l'objet en ce moment aussi d'une législation.
Une législation qui est déjà
législation très très importante.
Qui a été votée
récemment. Même au Niger, il y a deux semaines, il y a une loi sur ces aspects-là. Et c'est déjà le cas dans beaucoup de pays. Et je pense qu'en parlant de la signature, donc il faut aussi parler de ces évolutions technologiques.
Bien. Monsieur Soumaïla Abdoussadou, sur les conséquences, si nous prenons par exemple une autorité administrative, si nous prenons une personne quelconque qui appose sa signature sur un document, sur un contenu, et qui par la suite renonce à accomplir les obligations, par exemple, qui sont contenues sur le document signé.
Mais là, la personne, elle s'expose à des poursuites, c'est clair. Parce que vous êtes engagé, la signature, ça vous engage. Dans un contrat, c'est pour ça qu'il faut toujours lire. Et c'est pour ça la mention, comme il a dit, supplémentaire. Que les gens mettent pour des précautions, évidemment. Parce qu'elle n'est pas obligatoire. Lui est approuvé. Donc ça veut dire que vous avez lu le contenu. Vous savez ce qui vous incombe comme obligation à respecter scrupuleusement. Et maintenant, si vous renoncez à le faire, c'est même dit, au cas où vous refusez d'accomplir vos obligations, vous serez poursuivi. Donc, c'est simple. Si vous n'avez pas reçu délégation d'une signature, par exemple, vous n'avez pas le droit de signer. Si vous n'avez pas reçu la délégation d'une signature, on vous délègue, on vous donne le droit d'être signataire et que vous partiez signer, vous savez que vous vous exposez à une poursuite et vous ne mesurez pas l'immensité des responsabilités que de cette signature-là. Souvent, les gens prennent la signature comme quelque chose d'extrêmement banal, au point où voilà, ils peuvent se permettre de dire, ils vont imiter, ils vont apprendre la signature de quelqu'un où ils vont aller. Et il a bien dit, les fonds en écriture publique, c'est des choses qui ne profitent pas des mesures de grâce présidentielle. Tellement c'est des choses extrêmement gravissimes.
Est-ce que dans le cadre de contrat et dans le cadre en tout cas de certains actes, est-ce qu'on doit apposer sa signature sur un contenu dans lequel on a des réserves où vous pouvez signer?
Bon, généralement, c'est ça. C'est au niveau des États, par exemple, les traités souvent, par exemple, les trucs du code de la famille, où l'État peut dire que sous réserve de tel point, elle va signer parce qu'elle n'est pas d'accord avec ces choses-là. Mais quand il s'agit d'un recrutement, il y a ce qu'on appelle le job description, c'est-à-dire la description des tâches. Des responsabilités à accomplir, et vous êtes obligé. Si vous n'avez pas le profil, il y a un profil qui est défini. Donc, si vous avez le profil, forcément, vous pouvez faire de telles responsabilités, mais vous ne pouvez pas dire que ça, c'est pas.
Soit vous signez ou.
Oui, exactement. C'est un formulaire qui est là, qui est rempli. Vous signez, vous approuvez, et puis bon, vous donnez les deux mains. C'est comme ça également quand vous avez un problème, peut-être avec. En face du juge, votre avocat, une situation de conditionnelle. Voilà, on vous dit, vous allez signer, mais voilà les mesures qu'on vous impose. On vous donne la liberté provisoire, mais voilà, vous êtes tenu d'être là tel jour, ou bien de rester, de ne pas aller dans tel périmètre. Mais comme l'a si bien dit Maïna, la signature a beaucoup évolué. Et c'est pour davantage sécuriser la signature que les gens sont passés à l'ère du numérique, bien que nous, on semble être figé dans le temps. On n'a pas tendance à suivre le tempo du monde entier où tout est signature électronique, tout c'est là. Parce que c'est les ordinateurs là même que nous utilisons. Chaque ordinateur sur le réseau, elle a sa signature. Et c'est à partir de là, justement, on sait d'où est-ce que la personne s'est connectée. Parce que chaque ordinateur a son numéro sur le réseau. C'est ça, sa signature. On peut retrouver exactement la personne. Et vos comptes que vous avez, mail, c'est des signatures qu'il y a dedans, qui permettent de vous identifier en cas de forfait. Donc, le crime parfait, ça n'existe pas. Tout comme dans la réalité, et sous également dans le virtuel, c'est-à-dire sur les réseaux. Mais nous, on a vocation, bien qu'on ait un peuple en majorité analphabète et on utilise dans nos administrations les procédures archaïques, les documents, les livres, parce que ailleurs quand vous partez, vous allez voir quelqu'un qui écrit avec un stylo ou tout ça là sur du papier. Ça, c'est toujours des trucs pour les procédures se font en ligne, c'est-à-dire les procédures sont dématérialisées. Vous n'avez pas de la papyrasse. Quand il y a des conventions, pour encore répondre, par exemple, vous avez une convention ou bien un marché, parce qu'il y a une signature également dans ce côté. Si vous faites autrement ce qu'a dit le cahier des charges, vous vous exposez.
Ça vous engage
à faire, mais bon.
Bien, est-ce que peut-on annuler ou revenir sa signature? Si oui, dans quel cas et à quelles conditions?
Dès qu'il est signé, il est déjà vêtu de l'autorité. Hein, c'est clair, il est actif. C'est-à-dire, il est en application. Maintenant, si ça concerne une personne qui se sent lésée, il y a ce qu'on appelle le recours gracieux que la personne fait. Ensuite, il y a des juridictions compétentes qui peuvent amener la responsable ou le responsable qui a pris cette décision à annuler ça. Mais c'est toute une procédure. Mais si vous avez pris un acte, mais vous n'allez pas dire demain, vous allez. Non, si. Ça dépend. Si y a des gens qui s'estiment lésés, ou bien que vous n'avez pas respecté les normes. Dans toutes choses, on a une autorité supérieure. Si elle n'est pas juridique, elle est hiérarchique.
Bien. Monsieur Maïna Karté.
Par rapport aux réserves là, oui. Si vous lisez un document et que vous constatez qu'il y a des choses par rapport auxquelles vous ne devrez pas signer, vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne signez pas tout simplement. Ou bien vous signez, mais vous exprimez des réserves. Comme en droit international, effectivement, un État peut signer, mais exprimer des réserves. Je pense que c'est le cas du Niger par rapport à la CEDEAO. C'est le cas de bien d'autres pays par rapport à d'autres conventions. Bon, ça, c'est tout un régime aussi. Les réserves, c'est tout un régime. Mais la signature en tant que moyen de preuve, vous savez, il y a des procédures où, je dis pas qu'elle est inutile, mais elle n'est pas nécessaire. Là aussi, c'est par permission de la loi. Si je prends le contrat du travail, il n'y a pas contrat de travail entre un employeur et un employé parce qu'il y a une signature sur un document. Le contrat de travail peut se prouver par l'existence d'un contrat de travail qui a été signé par l'employeur et l'employé. Tout comme le contrat de travail peut se prouver par tout moyen. Ça, c'est aussi la loi qui le dit. C'est le code du travail qui le dit, par article 41 ou bien 49 qui a dit ça. Le contrat de travail se prouve par tout moyen. C'est-à-dire qu'on peut venir déduire l'existence d'un contrat de travail entre X et Y en regardant d'autres aspects, notamment la relation de travail, la rémunération, le lien de subordination, sans chercher à fouiller pour voir une signature. Donc ici, voilà, la signature, elle est inopérante. Ou du moins, je dis, elle n'est pas nécessaire. Maintenant, par rapport à la deuxième question, j'ai signé un document. Et après, j'aimerais revenir là-dessus. Oui, on peut revenir sur un document. Supposons qu'un administrateur, un décideur, le président de la République, le ministre, le maire, le directeur, etc., etc., a signé sur la base d'informations erronées, sur la base de manœuvres dolosives, sur la base de l'erreur. Eh bien, il ne retire pas sa signature, il retire l'acte tout simplement. Il retire l'acte.
C'est l'acte qui
sera retiré. Selon le même parallélisme de forme, on retire l'acte tout simplement. On l'annule avant même que quelqu'un ne l'attaque. Maintenant, si c'est dans des opérations de type privé, j'ai signé sur un document, sur la base de la tromperie, sur la base des manœuvres, sur la base du dol.
Oui, effectivement, aussi, le dol qui veut dire qu'on nous a présenté une situation.
On vous a présenté une situation.
Un autre aspect d'une situation qu'on n'aurait pas acceptée.
Si on savait que cela, on n'allait pas accepter. Et bien là aussi, ça peut annuler. Ça peut annuler votre engagement. Vous avez donné votre consentement sur la base des informations bien déterminées. Mais ces choses bien déterminées-là, vraiment, il y a eu une action, une planification d'action à l'effet de vous tromper pour juste obtenir votre signature. Alors, si vous parvenez à prouver cela, eh bien, vous pouvez revenir sur votre engagement. Mais selon des formes aussi définies par la loi, dans le désordre. Voilà. Mais je pense que par rapport à la question de la signature, il y a beaucoup de sensibilisation à faire, comme cette émission. Je pense qu'il faut continuer à les faire. Mais surtout, c'est aux responsables administratifs. Chaque fois qu'il y a lieu de signer, je pense qu'il faut expliquer à la personne l'exercice qu'elle va faire là, quels sont les tenants et les aboutissants, etc. Surtout pour le cas des personnes
analphabètes. En cas de non-respect.
Voilà.
Pour finir, nous entamons cette dernière partie, notamment par rapport à l'authenticité de la signature et à sa protection. C'est vrai qu'on a un peu déjà ébauché ces questions électroniques de cybercriminalité. On dit par ailleurs que la force d'une signature dépend des possibilités de certification et de vérification dont elle peut faire l'objet. Qui peut certifier ou vérifier une signature, Monsieur Menakarta?
Le monde évolue de sorte que il y a beaucoup de documents aujourd'hui sur lesquels il y a des signatures. Je prends l'exemple des établissements scolaires, les universités publiques et privées, les instituts de formation, où vous avez des gens, et même au niveau des entreprises, les gens produisent des diplômes. Aujourd'hui, tu peux aller sur ton ordinateur, sur la base d'un diplôme, des diplômes que tu as déjà vus, fabriquer un très joli diplôme, le tirer et mettre le recteur de cette université, signer. On a des choses comme ça aujourd'hui. Eh bien, c'est la personne la mieux indiquée qui va vérifier. Si vous avez des doutes, vous vérifiez au niveau de la source. Aujourd'hui, je peux vérifier une signature qui a été faite en Afrique du Sud sans perdre du temps, sans bouger de Niamey. Je peux vérifier une signature faite en Argentine à partir de Niamey. On peut vérifier, il y a des adresses, il y a des machins. Si c'est vrai, vous allez trouver un correspondant qui va vous dire oui, ça c'est vrai. Voilà, donc je pense que c'est la personne la mieux indiquée, le service partenaire de celui qui se présente avec ce document-là, on peut vérifier, il n'y a pas de personne. Alors, c'est une question d'intérêt. Si vos intérêts commandent à ce que vous vérifiez l'authenticité d'un document, d'une signature, eh bien, vous engagez des procédures pour voir ça. Les universités le font. S'il y a un service des équivalences au niveau de l'Université de Niamey, par exemple, où les gens viennent avec des diplômes de plusieurs écoles, souvent des diplômes délivrés des pays très loin d'ici, eh bien le service des équivalences a ses modalités d'investigation.
Alors, si nous prenons en considération les questions de transaction et de on va dire de commerce entre deux personnes. On voit souvent dans les questions de vente, deux personnes, il y a des signatures souvent sur un acte de vente, mais qui nécessite souvent l'intervention d'autres acteurs, et notamment les notaires.
Notamment le notaire, effectivement. Il y a des actes qui entre deux personnes privées.
Oui. Pourquoi la seule signature des deux personnes
ne suffit pas? C'est pour une fausse probante. Souvent, effectivement, deux personnes qui se retirent dans un atelier, dans une chambre, ils signent. Souvent, l'engagement là, il n'est pas très très fort. Il faut qu'elles partent vraiment recueillir des témoins, mais aussi il faut vraiment lui donner une véritable force, par exemple au niveau du commissariat, au niveau du cabinet du notaire. Même au niveau du commissariat, par exemple, il y a des choses quand nous signons, nous partons là-bas pour apposer la signature du machin. Donc je pense que ça, c'est pour donner une grande force probante à l'acte. Quand il y a la signature d'un notaire, hein, d'un commissaire de police, sur des volontés que vous avez exprimées, manifestées à deux, eh bien, c'est vrai, ça c'est valable, mais il faut craindre la rétractation de l'un des partenaires. Donc, il faut aller devant une personne, une autorité ou bien un notaire pour recueillir sa signature, son cachet, et ça veut dire
qui que certifie vraiment,
ça certifie que ça scelle davantage votre l'engagement que vous avez manifesté à deux.
Donc ça veut dire que deux personnes ne peuvent pas simplement s'entendre.
Elles peuvent faire, deux personnes peuvent s'entendre, ça se fait. Devant beaucoup d'actes, vous avez juste un papier comme ça qui est devant moi, et vous avez une signature avec un truc ici, puis ici. Bon, maintenant, en cas de litige, si par exemple une personne animée dès le départ d'une mauvaise volonté dit que moi c'est faux, je n'ai jamais signé là-dessus, vous voyez, ça peut créer un problème. Mais si les deux personnes se trouvent devant un notaire qui va constater que sur leur engagement, il met aussi son cachet, alors là, elles sont liées. Voilà. Ça, c'est pour donner un peu plus, c'est pour lier davantage les deux.
Oui, M. Soumaïla Abdou, par rapport à la validité et à la certification de signature.
Bon, c'est pour revenir peut-être un peu par rapport à ce que Maïna a dit sur le contrat du travail. Effectivement, en droit du travail, le contrat, ce n'est pas... Parce qu'il y a une signature qui définit qu'il y a un contrat de travail entre vous et quelqu'un. Si vous, il y a des conditions qui doivent être énumérées, vous acceptez à vous mettre sous l'autorité de quelqu'un et moyennant une rémunération, c'est-à-dire c'est un contrat, comme on le dit, synalogmatique, c'est-à-dire un consentement mutuel entre deux personnes. Donc ça peut être, on peut parler de contrat. Donc vous voyez, dans ces cas de figure, c'est pas de la paperasse, c'est pas du papier qu'il faut amener pour dire que vous êtes engagé, je m'étais engagé à me mettre à votre service. Et nous avons tous des bonnes, chez nous, elles ont un contrat de travail avec nous. Parce que, bon, elles sont sous notre autorité, elles sont rémunérées, elles ont accepté également. Donc ça, c'est la preuve, voyez, non, de l'engagement. Maintenant, pour parler par rapport à ce que Maïna a dit, effectivement, il faut toujours des témoins, il faut qu'il y ait aussi une autorité qui peut attester. C'est pour ça, quand on fait souvent les tirages, les loteries et autres, on amène toujours un huissier pour attester également la validité des choses. Parce que lui, il a cette autorité, cette habilité à rendre la chose solennelle, officielle.
Et pour vous éviter êtes, toute rétractation, certaine, comme
exactement, nous l'avons évoqué, exactement.
De l'une des parties.
Exactement, parce que vous êtes entendu entre vous, vous avez conduit les négociations, tous les points, vous êtes entendu. Maintenant, elle vient s'asseoir également pour attester que vous avez tout signé, vous êtes tous d'accord. Voilà. Maintenant, s'il y a des procédures que vous dénoncez ça, c'est encore autre chose. Il faut encore reprendre une autre procédure. Parce que peut-être dans les clauses, il existe. Au moment où il y a une voie où quelqu'un peut dénoncer le contrat ou l'engagement entre eux. Parce qu'il faut toujours laisser une porte. Peut-être moyennant un certain dommage. Il y a plein de choses qu'il faut faire dans ces cas.
Alors, dernière question aux deux. Quelles sont les mesures de sécurité à adopter contre les falsifications de signatures ou, en tout cas, pour protéger sa signature?
Bon, la sécurité zéro, ça n'existe pas d'abord. Il faut qu'on le sache. Dire que vous avez une signature, elle est protégée. C'est fini, personne ne peut l'imiter, ça c'est impossible. Le faussaire, lui, c'est ça son métier. Il a fait de ça son métier, il va s'exercer le temps qu'il lui faut, les nuits blanches qu'il a à passer pour faire ça. L'intégrité, il faut que les gens soient apprennent à être intègres. Il faut que les gens sachent que les dangers qu'ils encourent lorsqu'ils sont amenés à imiter la signature de quelqu'un ou bien à signer un document dont ils n'ont pas l'habilitation ou la compétence à signer. Et Dieu merci, maintenant, comme Mena l'a dit, il y a la possibilité de vérifier, de vérification. Quand les gens préviennent avec des diplômes, excusez-moi, béninois, malien, ailleurs, on vérifie. L'État nigérien a même de vérifier l'authenticité de ces diplômes. Parce que chaque diplôme a un numéro, c'est pas seulement la signature. Ils vérifient dans leur base de données si exactement ce numéro-là, il est attribué à vous qui êtes détenteur, qui va déposer, ou bien à quelqu'un d'autre qui est ailleurs. Donc, ouais. Donc, c'est les garanties vraiment, on ne peut pas dire qu'une signature. Parce que même le président de la République, qui est le seul, la seule fonction qui est là, il est seul dans un pays, sa fonction même, sa signature même peut être imitée. Maintenant, là, voilà, à plus forte raison, les autres.
Oui. Par rapport aux mesures, en tout cas.
Les mesures, la première mesure, c'est qu'il faut réprimer tous ceux qui imitent les signatures. Il faut réprimer. C'est des impressions qu'il ne faut pas laisser là-bas. Et puis bon, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de deuxième mesure. Sauf que j'ai dit tout simplement qu'il faut être intègre, comme l'avait dit Soumela. Il faut être intègre. Il faut retenir que la limitation d'une signature, c'est vraiment un péché. C'est un très grand péché. Même dans la religion, ça c'est un péché que de venir se comporter comme une autre personne, prendre un engagement, une décision à sa place, alors que bon, ça c'est vraiment un péché.
Et le respect aussi de l'engagement des signataires est important.
Oui, quand vous signez aussi, il faut savoir que ça vous engage. Ça traduit votre consentement. Vous êtes lié et vous êtes responsable. Voilà.
Merci à vous d'avoir bien accepté de participer à cette émission sur le thème « La portée d'une signature, implication juridique et administrative ». Nous l'avons vu, la signature, c'est une marque ou une inscription qu'une personne crée et choisit de reproduire de manière constante et uniforme toute sa vie. Elle sert à matérialiser la sincérité, l'accord ou l'engagement de cette personne vis-à-vis d'une tierce. Le non-respect de l'engagement signé expose l'auteur à des peines variées. Aussi, la falsification d'une signature peut être sévèrement puni en cas de poursuite. Nous étions en compagnie de Maina Karté, juriste, et Soumaïla Abdoussadou, administrateur. Présentation à Alassane Kouzi Mahamadou, la technique assurée par Hussein Issaka. Merci.